Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Allez Philippe Rossi, on vous retrouve avec vos invités.
Et oui, le mardi, ce sont les vraies voix de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Lavernie, tiens, qui est avec nous, directeur du réseau national Mission Emploi. Et vous, évidemment, 0826 300 300, ça vous connaissez, c'est le numéro du standard de Sud Radio. On vous attend nombreux d'ailleurs pour participer à l'émission Les vraies voix de l'emploi consacrée ce soir à la réforme de l'assurance chômage. Oui, car fin avril, le PS et Europe Écologie Les Verts avaient adressé un courrier à Édouard Philippe lui demandant d'abandonner purement et simplement la réforme de l'assurance chômage afin, je les cite, de ne pas ajouter à la crise sanitaire un carnage économique et social. Fin de non-recevoir, la réforme n'est ni abandonnée ni reportée. Une partie de la réforme est d'ailleurs même déjà entrée en vigueur, et oui, celle qui durcit les conditions d'accès au chômage, avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois par exemple. Quant à l'autre partie, qui durcit le calcul de l'allocation, eh bien elle entrera en vigueur à la rentrée. On vous pose donc cette question ce soir. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique. Va-t-on vers une plus grande précarité? Bah vous votez, tiens, d'ores et déjà sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Oui ou non, évidemment, le 0826 300 300. Bonsoir Jérôme Lavernie. Bonsoir à vous Jérôme Lavernie, directeur du réseau national Mission Emploi. Je ne sais pas si vous m'entendez bien Jérôme. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Pierre-Édouard Magnan. Bonsoir Pierre-Édouard Magnan.
Bonsoir.
Bonsoir Pierre-Édouard Magnan, vous êtes président du mouvement national chômeurs et précaires. Alors Pierre-Édouard Magnan, première question, cette réforme va créer encore plus de précarité dans le pays. C'est un fait indéniable, c'est pour ça que vous avez vous aussi demandé à ce qu'elle soit abandonnée?
Ah bah c'est un fait indéniable. De toute façon, l'UNEDIC elle-même, dans ses projections, a montré que c'est par centaines de milliers que les chômeurs vont ou perdre leurs droits en tout ou en partie. Donc je veux dire, l'UNEDIC n'est pas encore un repère de militants du mouvement national des chômeurs et précaires, donc c'est pas nous qui le disons, c'est clairement une réforme qui vise à faire des économies au nom d'un principe parfaitement absurde qui voudrait que la règle serait qu'on vive mieux au chômage que dans l'emploi, ce qui est faux, et d'ailleurs c'est tellement faux que l'UNEDIC et Pôle emploi ont ramé comme pas possible pour essayer de trouver des exemples qui sont d'ailleurs parfaitement biaisés. Et alors évidemment, le confinement n'a fait que renforcer puissance 10 une situation qui, de toute façon, était catastrophique. J'ai envie de dire, il a aussi d'ailleurs démontré que ce qu'on disait était vrai, parce que si cette réforme était si formidable, c'est justement au moment où on en a le plus besoin, c'est-à-dire pendant la période du confinement et la période post-confinement, qu'elle aurait dû porter le maximum de fruits. Or, on a fait le choix de la reculer parce que ça allait être terrible. Vous savez, si ça avait été terrible au 16 mars, ce sera terrible au 1er septembre pour les chômeurs et les précaires concernés.
C'est reculé pour mieux sauter. Jérôme Lavernie.
Oui, en fait, il s'agit de décrypter un petit peu la chose. La réforme affiche clairement le but de faire des économies. On verra dans quelle mesure, dans quelle proportion, est-ce que c'est vraiment le moment et sur quelle perspective. L'idée, c'est bien évidemment aussi, réforme de l'assurance chômage, de l'inscrire dans une lutte contre le chômage, et dit autrement, pour l'emploi. Est-ce que les mesures en question vont permettre à la fois de lutter contre le chômage et donc de relancer l'emploi, avec, oui, en filigrane, comme il était dit à l'instant, la présomption qu'il y a un certain avantage et profit qui a été tiré, et vient un troisième critère de décryptage, la temporalité d'une réforme. Est-ce que c'est le meilleur moment de le faire? Est-ce que au moment où on commence à percevoir le résultat sonnant et trébuchant de la crise, à savoir des fermetures d'entreprises, des difficultés accrues parmi les entreprises, est-ce que c'est réellement le moment de doubler ces difficultés de l'autre côté de la barrière, côté chercheurs d'emploi et salariés d'une manière générale, en durcissant dans la perspective d'économie de bout de chandelle?
Ouais. Vous avez un chiffre, Pierre-Édouard Magnan, combien il y a de chômeurs précaires en France? Vous le savez?
Ça dépend complètement du prisme que vous prenez.
C'est difficile à comptabiliser, j'imagine.
Ça va de, on va dire, en gros, 3 millions, à peu près, un peu plus de 3 500 000, on va dire, chômeurs inscrits, catégorie A, Pôle emploi. On peut monter jusqu'à 9 millions de gens en France qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, à partir de là, au milieu, évidemment, si on prend les catégories A, B, C, vous savez, si on prend Pôle emploi, si on prend le Bureau international du travail, les définitions sont pas les mêmes, c'est très vaste. J'allais dire, moi, j'aime bien ce chiffre, Je l'aime bien comme exemple, il me fait peur chaque fois que je le regarde, mais d'un pays où on est 14% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Parce que pour le coup, ça veut dire, quelle que soit la situation, pas de boulot, un peu de boulot, des mauvais boulots, des bouts de boulot, en tout cas, ça veut dire que on est sous la barre des 1000 euros par mois pour vivre. Et d'ailleurs, ouais, à ce tarif-là, on ne vit pas. Et j'allais dire, dans ces cons, vous savez, quand vous avez du mal à vous loger ou à vous nourrir, que c'est les 500, les 600, les 700, les 800 euros, ils viennent, ou de l'ASS, c'est-à-dire de l'État, de Pôle emploi, de l'UNEDIC, du RSA, enfin, d'où qu'ils viennent, de toute façon, ils vous permettent pas de vivre décemment. Et au fond, c'est ça le problème, y compris d'ailleurs quand c'est quelques centaines d'euros, pour certains, viennent aussi, pourquoi pas, d'un peu de travail, puisque tout peut un peu se mélanger. Sachant que cette réforme va pousser les chômeurs à va détruire définitivement le cumul emploi-travail, puisqu'il y a des tas de demandeurs d'emploi. Avant, je ne sais pas s'ils gagnaient plus, je le sais d'ailleurs, c'était pas vrai, mais admettons pour la formule, je ne sais pas s'ils gagnaient plus avant et cumulaient chômage-emploi. Ce dont je suis sûr, c'est qu'à compter du 1er septembre, ils vont surtout tout perdre s'ils cumulent travail-emploi. Ouais.
Vous avez demandé au gouvernement de prolonger l'ensemble des chômeurs jusqu'à la fin de l'année. Pierre-Edouard Magnan, est-ce que vous avez une réponse du gouvernement? Est-ce que vous l'avez demandé officiellement ou pas?
Alors, on l'a évidemment demandé officiellement, en tout cas aussi officiellement qu'on peut le faire, puisque depuis 3 ans, la ministre du Travail, qui est aussi la ministre des chômeurs, nous ignore et ne nous a jamais reçu une seule fois. Je pense que même l'amicale Boulis de Saint-Paul-de-Vence, pour laquelle j'ai le plus grand respect, a été reçue par la ministre du Travail, mais pas nous. Ouais. Mais on a demandé chaque fois qu'on peut. Je tiens à dire d'ailleurs que sur cette réforme, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que d'abord, il y a une unanimité absolue de l'ensemble du secteur associatif, du monde syndical dans son intégralité. Même le patronat, je trouve, ne se lève pas farouchement pour la défendre, mais je pense qu'on a en face de nous, vous savez, on nous accuse nous souvent d'être des idéologues. Et ben, alors d'abord, on pourrait débattre du fait que c'est pas forcément un vilain mot, l'idéologie, mais de toute façon, en tout cas au sens où on l'emploie habituellement, on va dire, de sectaire et d'obtus, ce gouvernement est quand même relativement pas mal, parce qu'ils sont arc-boutés sur ce principe, et nous, la dernière fois qu'on a eu le cabinet de la ministre au téléphone, ça a été pour nous dire que cette réforme, elle restait bonne, que son esprit restait bon, qu'il fallait la maintenir, peut-être un petit aménagement de curseur ici ou là. Vous parliez tout à l'heure de la partie du 1er novembre, c'est-à-dire que avant il fallait avoir travaillé 4 mois dans les 28 mois précédents pour accéder au chômage, maintenant il faut, depuis le 1er novembre, il faut 6 mois dans les 24 derniers mois, il pourrait y avoir un petit mouvement de curseur pour repasser de 6 à 4 dans les 24 mois précédents, tout ça, ça fait un peu tambouille, et de toute façon, c'est pas à la hauteur du choc qu'on nous annonce. Je rappelle que même des instituts qui, pareil, ne sont pas des organismes militants, annoncent au moins 1 million de chômeurs de plus d'ici la fin de l'année. Enfin, et j'ai envie de dire, et là, c'est peut-être dans le meilleur des cas, quand on voit un peu ce qui s'annonce, quand on voit les chiffres depuis avril et mai, et quand on sait aussi toutes les entreprises qui ont tenu grâce au chômage partiel, mais qui vont jamais réussir à repartir. On rappelle qu'il y a déjà des... Vous savez que les convocations de CSE dans les grandes entreprises se multiplient. En ce moment, c'est pas bon signe quand le comité social et économique d'entreprise est convoqué. Hein. Donc on est vraiment extrêmement inquiet. Et je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire de tous ces gens et comment ils vont vivre, parce que c'est la question qui se pose.
Ça va être un problème. Tiens, Jérôme Laverny, je vais vous citer une phrase, il va se reconnaître, elle est signée Pierre-Edouard Magnan qui est avec nous. Ça va bientôt être le déconfinement du chômage. Bon. Bien trouvé, Jérôme, c'est effectivement ce qui va se passer.
Bah oui, tout à fait. Alors, autre idée que contient cette loi, l'idée de dire il faut rendre le travail plus rémunérateur que l'oisiveté. Alors, c'est dit en plus dans des termes parfois pas très très délicats. Sauf que là, cette meilleure rentabilité n'est vue que sous le prisme d'une réduction de l'allocation chômage. Là où il aurait été peut-être intéressant de se pencher sur une meilleure rémunération du travail en y aidant les entreprises, pourquoi pas en appuyant les entreprises, ce qui aurait immanquablement pu permettre de répondre à un nombre d'offres d'emploi qui, paradoxalement, restent non pourvues.
Pour finir, Pierre-Edouard Magnan, président du mouvement national chômeurs et précaires, il nous reste quelques secondes. Quelle est la suite? Est-ce que vous allez réitérer votre demande? Est-ce que vous voulez par exemple être reçu avec les partenaires sociaux pour discuter de cette réforme qui va pas être abandonnée, on le sait, mais...
Je pense que dans le meilleur des cas, on aurait un report sine die. Alors, je pense qu'on dirait que ça ne nous suffit pas, mais on saurait s'en contenter, puisque quand on dit report sine die d'une réforme, on sait qu'on la reverra jamais. Après, très concrètement, évidemment, on va redoubler notre demande. Évidemment, on le fait avec plein de collectifs. Moi, j'étais encore ce matin avec le collectif des précaires du secteur de la restauration, de l'hôtellerie, de l'événementiel, qui sont un secteur absolument frappé de plein fouet par la situation actuelle. Donc, nous, on est évidemment sur tous les fronts, aussi bien avec les syndicats, avec le secteur associatif. On multiplie les demandes et on multiplie multiplie les alertes, y compris aussi auprès des parlementaires. Force est de remarquer que pour l'instant, je ne sais pas si nous sommes entendus, mais en tout cas nous ne sommes pas écoutés, ça c'est certain. On peut espérer quand même que ce gouvernement finisse de temps en temps par revenir un peu à la raison, et effectivement par arrêter de considérer que les chômeurs sont des oisifs. C'est vraiment un langage, on croirait un langage de vieux réactionnaires, de vieux curés réactionnaires du 19e siècle. C'est absolument, alors c'est à la fois dérisoire et en même temps insupportable pour les personnes qui elles sont en souffrance et qui ne sont pas des oisifs qui attendent que le temps passe.
Vous avez raison, merci à vous Pierre-Édouard Magnan, président du mouvement national chômeurs et précaires. Vous nous tiendrez au courant évidemment et on aura l'occasion de vous réinviter. On va se retrouver dans quelques instants et notre débat qui se poursuit. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique. Va-t-on vers une plus grande précarité? La réponse sur les réseaux sociaux est oui à 70%. Le 0826 300 300 pour venir débattre avec nous. On rejoindra dans quelques minutes Anne Edou, elle est membre des économistes atterrés contre la réforme également. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Avec Jérôme Laverny qui est toujours avec nous, directeur du réseau national Mission Emploi. Jérôme qui m'accompagne chaque mardi, vous le savez, on poursuit le débat tous ensemble. Le gouvernement qui maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise sanitaire et la crise économique qui suit, d'ailleurs elle est là, on est en pleine récession. Va-t-on vers une plus grande précarité? Ça c'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux. Vous votez sur Twitter, sur Facebook, petit résultat, petit point sur les sondages, toujours 68% de nos auditeurs qui répondent oui à notre question. Le 0826 300 300, évidemment, si vous voulez témoigner, si vous voulez intervenir à l'antenne, débattre avec nous. Et on accueille tout de suite Anne Edou, maîtresse de conférence économie au CNAM et membre des économistes atterrés. Bonsoir Anne Edou.
Bonsoir.
Bonsoir à vous Anne Edou. Tout d'abord, tiens, est-ce que vous pouvez répondre à la question que l'on pose à nos auditeurs sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Facebook? Va-t-on vers plus de précarité avec cette réforme qui va être complétée à la rentrée?
Alors, si la réforme qui était prévue passe effectivement à la rentrée, ce volet-là de la réforme, hein, c'est-à-dire que le volet qui devait rentrer en vigueur au 1er avril 2020 et qui a été différé, selon une note de l'UNEDIC qui date déjà de l'année dernière, 850 000 personnes devaient être concernées par ce changement de calcul. Donc là, c'était avant la crise sanitaire, avec une baisse moyenne de 22% de leur allocation mensuelle nette. Hein. Donc voilà, si on intègre les effets de la crise sanitaire, qui sont sûrement pas bons, je pense que ces prévisions de l'UNEDIC sur la hausse de la précarité des demandeurs d'emploi, elles sont encore à revoir à la hausse. Voilà. Donc, bien sûr, la précarité des demandeurs d'emploi va augmenter. Hein. Il faut savoir déjà avant la crise sanitaire, plus d'un tiers des demandeurs d'emploi étaient pauvres.
Vous expliquez, Anne Edou, pardon de vous interrompre, vous voyez un lien entre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, s'il y a un lien, je dirais que d'abord, il est dans la gouvernance. C'est-à-dire que dans les deux cas, on a une reprise en main du système par l'État au détriment des partenaires sociaux. Conduit au fait que le financement se fait non plus tant par la cotisation que par d'autres mécanismes. Et ce changement, il se traduit aussi par des systèmes d'indemnisation beaucoup moins favorables.
Et vous voyez également, Anne Edou, un impact, selon vous, cette réforme aura un impact sur la santé des salariés. En quoi la réforme de l'assurance chômage va dégrader, si j'ai bien compris, la santé des salariés?
Ah, alors ça c'est parce que vous avez lu une interview.
Oui, tout à fait.
Voilà, alors c'est pas tout à fait un argument central pour moi, mais effectivement, je dirais
mais que... Mais ça compte, c'est pour ça qu'on en parle.
Oui, ça compte. C'est-à-dire que, de toute façon, dans les périodes de chômage élevé, les salariés ont tendance à s'accrocher à leur emploi parce que ils ont des difficultés à en retrouver un autre. Hein. Les formes de mobilité se transforment. Et donc, effectivement, plus on dégrade les conditions d'indemnisation dans un contexte de chômage élevé, et plus on a des salariés qui se trouvent dans des situations de travail subies et ont des difficultés à quitter un emploi, même avec des conditions de travail très dégradées. Et puis, je dirais, pour les demandeurs d'emploi, ben, on assiste aussi à des phénomènes du même ordre, c'est-à-dire que les demandeurs d'emploi peuvent être poussés à accepter n'importe quel emploi quand ils n'ont pas droit à une indemnisation. Alors, je dirais que là, avec la crise sanitaire, en plus, leur perspective de retour à l'emploi se réduit.
Jérôme Lavernière, on comprend pourquoi il y a cette réforme de l'assurance chômage, ça fait faire des économies au gouvernement, beaucoup d'économies, nous dit-on. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, Jérôme Lavernière? On sait qu'il va y avoir des centaines de milliers de suppressions de postes. Je crois en 2021, un chômage à plus de 11%, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que vraiment, Jérôme Lavernière, le gouvernement ne sera pas obligé peut-être dans quelques mois et la casquette de faire peut-être un peu marche arrière?
Alors, justement, vous avez raison. Parlons d'économie, s'il s'agit dans cette réforme de faire des économies. Il s'agirait aussi peut-être de s'interroger à savoir si, à défaut de moins dépenser d'argent, on le dépense un peu mieux. J'entends par « on », l'État, au moment de soutenir l'emploi et de lutter contre le chômage, comme je le disais tout à l'heure. J'ai reçu aujourd'hui même, cet après-midi, la proposition d'un conseil départemental au moment de mettre en place un groupe pour accompagner des futurs créateurs d'entreprises en juillet 2020, au moment même où nous traversons une crise effroyable. Deuxième chose, ce dispositif de création d'entreprise est dédié aux allocataires du RSA. Non, mais il faut complètement être dingue pour lancer un tel dispositif au moment où nous sommes aujourd'hui. Pour des gens qui, allocataires du RSA, sont dans une situation qui n'est pas la plus confortable pour créer une entreprise. Mais c'est comme ça, c'est une hystérie récurrente que celle d'envisager la résolution du chômage par, entre autres, bien sûr, des groupes de futurs créateurs d'entreprises, d'accompagner les créateurs d'entreprises. Donc, encore une fois, à défaut de se préoccuper de moins dépenser d'argent, il s'agirait peut-être déjà de le dépenser un petit peu mieux. Il s'agit d'accompagner des demandeurs d'emploi pourvu de les inciter à retrouver un emploi, tout en sachant que le Pôle emploi confie à des prestataires privés ce même accompagnement. C'est des ateliers qui sont très très chers et qui, si on les cumule les uns après les autres, eh bien, constituent un poids considérable d'un point de vue budgétaire. Et pour préciser le propos de Madame Hédoux, oui, il va y avoir une baisse en moyenne de 22% sur les 850 000 personnes concernées, toujours dans cette même étude de l'UNEDIC. Pour 190 000 personnes, cette baisse va être de 50%. C'est considérable.
Ouais. Merci à vous, Anne Hédoux, d'avoir été avec nous ces quelques minutes, nous avoir éclairé sur le sujet. Maîtresse de conférence économie au CNAM, vous êtes membre des économistes atterrés. Merci à vous, Anne Hédoux. Jérôme Lavernière, qu'on va retrouver dans quelques instants pour poursuivre notre débat. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique qui s'annonce. Va-t-on vers une plus grande précarité? Vous votez sur les réseaux sociaux. On vous attend également au 0826-300-300. On sera dans un instant avec Michel Bogas de Force Ouvrière et le chef d'entreprise Luc-Éric Krief. A tout de suite, on va débattre tous ensemble.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Retour des vraies voix de l'emploi sur Sud Radio et notre débat qui se poursuit évidemment. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique. Question que l'on vous pose, va-t-on vers une plus grande précarité? Question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, vous votez et toujours 70% de nos auditeurs qui répondent oui à notre question ce soir.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Et pour en débattre, nos invités, Michel Bogas, secrétaire confédéral chargé de l'emploi Force Ouvrière. Bonsoir, Michel Bogas.
Bonsoir.
Bonsoir à vous. Luc-Éric Krief, également avec nous, chef d'entreprise, membre du MEDEF Île-de-France. Bonsoir, Luc-Éric.
Bonsoir à tout le monde.
Jérôme Lavernière, évidemment, directeur du réseau national Mission Emploi, qui est toujours avec nous. Alors, fin avril, le PS, mais pas seulement, Europe Écologie Les Verts, ont adressé officiellement un courrier au Premier ministre, lui demandant tout simplement d'abandonner la réforme de l'assurance chômage. L'argument, ne pas ajouter à la crise sanitaire un carnage économique et social, fin de non-recevoir. En tout cas, ils n'ont eu aucune réponse. Sauf qu'on apprend que la réforme n'est ni abandonnée ni reportée. D'ailleurs, précisons qu'une partie de la réforme est déjà entrée en vigueur. C'est la partie qui durcit les conditions d'accès au chômage. Quant à l'autre partie, celle qui prévoit de durcir le calcul de l'allocation, elle entrera en vigueur en novembre à la rentrée. Michel Bojas, première question, cette réforme va tuer les plus précaires ?
Ah oui, cette réforme manifestement va tuer les plus précaires, les tue déjà d'ailleurs en partie, puisque les conditions d'entrée de passer de 4 mois à 6 mois durcies, bien évidemment, mais surtout, les plus précaires, ce qui bénéficiait, c'était ce qu'on appelle le rechargement des droits, c'est-à-dire que avant la réforme, ils avaient en un mois, s'ils travaillaient 150 heures, ils avaient de nouveau le droit de prolonger leur droit de 150 heures. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est pour recharger. D'ailleurs, le mot est mal choisi, c'est 6 mois, donc en fait, on réouvre des droits, et c'est ce qui porte le plus préjudice aux précaires, mais aussi aux travailleurs saisonniers, par exemple.
C'est-à-dire qu'on va retrouver des travailleurs qui seront au RSA, quoi, ils vont se retrouver au RSA.
Très clairement, ils vont se retrouver aux minima sociaux, oui, au RSA.
Au minima sociaux.
Ouais. Si effectivement ils ont plus de 25 ans, parce que je rappelle que pour beaucoup sont des jeunes, et moins de 25 ans, vous n'avez pas le droit au RSA, ça veut dire que vous vous retrouvez sans rien.
Alors, il prévoit aussi cette réforme de l'assurance chômage de recalculer le salaire de référence. Le calcul prendra cette fois en compte pour base le salaire mensuel, alors c'était pour base le salaire journalier. Une mesure très rude également pour les précaires, vous imaginez tous pourquoi. Luc Érykrieff, avec cette réforme, le gouvernement veut lutter par exemple contre le recours abusif au contrat court, faire en sorte que le travail paye plus que l'inactivité. Franchement, Luc Érykrieff, est-ce que cette réforme est vraiment bien adaptée en ces temps et en ce temps de crise économique? On y est, Bruno Le Maire l'a dit. On a une récession plus dure qu'en 1945, 11% de chômage prévu en 2021. Franchement, Luc Érykrieff, est-ce que c'est adapté, cette réforme de l'assurance chômage?
Parce que vous me demandez d'être franc, donc je vais être franc, Philippe. Je pense que le timing n'est pas adapté. On est dans une situation relativement compliquée, post-Covid, avec beaucoup d'incertitudes au niveau économique, beaucoup d'entreprises qui commencent à mettre en place des plans de licenciement. Donc il est évident que cette réforme tombe peut-être pas forcément au bon timing, dans le bon tempo, mais je dirais qu'on est un peu habitué maintenant au niveau du gouvernement à être un petit peu en décalage par rapport aux problématiques que nous rencontrons. Mais ceci étant, pour être toujours aussi franc avec vous, je crois qu'il est important de réformer le chômage, en tout cas les mesures d'accompagnement du chômage, pour une raison simple, c'est que nous avons en France le système le plus avantageux d'Europe. Donc il faut absolument que l'on puisse à la fois faciliter la création d'emplois, mais également ne pas inciter les gens à rester dans une situation précaire qu'est le chômage. Donc il faut pouvoir effectivement inciter les gens à aller vers l'emploi et donner la possibilité aux entreprises d'embaucher des gens qui seraient éloignés de l'emploi. Voilà, donc je pense que la réforme du chômage doit être accompagnée de mesures fortes pour créer de l'emploi, faciliter le développement de l'emploi en France et donner la capacité aux entreprises d'embaucher et de débaucher au fur et à mesure que leur carnet de commandes se remplit. Voilà. Donc je pense que le tempo n'est pas le bon, mais la nécessité de la réforme est malheureusement incontournable.
Jérôme Laverny, cet argument de la flexibilité du travail, de permettre aux entreprises d'embaucher, effectivement, c'est un bon argument, on comprend ce que veut nous dire Luc Érykrieff, mais ça ne résout pas le problème de la précarité et de ces chômeurs qui ne s'en sortiront pas, qui accumulent les contrats courts. Il faut aussi penser à eux et trouver la bonne équation.
Tout à fait. On est bien d'accord que l'idée, c'est de lutter contre le chômage. Ça n'est pas un argument du tout. Le véritable argument, c'est de savoir quel type de moyens véritablement concrets on met. Là, il s'agit d'un pouvoir incitatif qui ne se situe que d'un côté de la barrière, c'est-à-dire qui repose sur le fait que en diminuant les allocations, on va inciter ou plutôt forcer un chercheur d'emploi à redoubler ses recherches et à retourner sur le marché du travail de façon plus rapide. Mais on ne s'intéresse pas à l'autre côté de la barrière. Je prends un exemple très concret. Pour un poste de préparateur de commandes au fin fond d'une zone logistique très éloignée et des transports et des centres urbains, si le salaire reste le même, on aura beau réduire les allocations chômage, il restera très difficile pour un employeur de trouver un candidat et pour des candidats rémunérés par l'allocation chômage de persévérer à y candidater. Donc, il aurait été peut-être judicieux de jumeler cette gestion de l'allocation chômage, si tant est qu'elle soit pertinente, d'un intérêt aussi sur la rémunération de certains secteurs, de certains métiers, de certaines zones géographiques. Je partage mille fois le point de vue de M. Krief. Je le disais tout à l'heure aussi, le timing est vraiment très mauvais, car en réalité, c'est maintenant qu'on voit des entreprises éprouver de réelles difficultés et de mettre en place des plans de sauvegarde de l'emploi, comme on dit très poliment.
Michel Bojas, vous avez demandé, j'imagine, l'abandon de la réforme, le report de la réforme. Est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue, par exemple, avec les partenaires sociaux pour pouvoir discuter de ça, de cette proposition, par exemple ?
Alors bien évidemment, nous demandons un retour à la convention de 2017 qui était beaucoup plus protectrice que ce qu'a fait le gouvernement, parce que effectivement le timing n'est pas bien choisi, mais et pour un moment, l'UNEDIC prévoit quand même 900 000 destructions d'emplois, 630 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Alors on peut baisser l'indemnisation, mais faut-il encore qu'il y ait un emploi en face ? Et c'est bien le problème qu'on va rencontrer d'ici à la fin de l'année, c'est que on va baisser l'indemnisation des demandeurs d'emploi, sauf que à n'importe quel prix, ils n'auront pas d'emploi. Et puis, comme ça a été dit, il faut revaloriser les salaires, par exemple, de tous ceux qu'on a appelés pendant la crise, pendant le confinement, ceux de deuxième ligne. Tous ces petits boulots qui nous paraissaient insignifiants, et on a bien vu que s'ils n'avaient pas été là, eh bien, une grande partie de l'économie se serait encore plus effondrée qu'elle ne s'est effondrée. Donc il y a une revalorisation des salaires, une revalorisation des métiers, et à côté de ça, abandonner cette réforme, parce que ça a été démontré, c'est comme pour la dégressivité, ça avait été déjà essayé. La démonstration est faite que c'est pas ce qui encourage les demandeurs d'emploi à aller vers un emploi. Au contraire, ça les éloigne encore plus. Donc arrêtons avec cette réforme et revalorisons plutôt les métiers et les salaires qui vont avec.
C'est vrai, Luc-Éric Krief, quand on a le temps, quand on est au chômage et qu'on a le temps de chercher un emploi, on a beaucoup plus de chances de trouver un emploi, j'ai envie de dire, stable, en CDI par exemple, ou alors en CDD longue durée. Alors que si évidemment on nous presse, comme ça va être le cas à partir de novembre, si on nous presse à trouver un emploi, bah, qu'est-ce qui va se passer finalement? On va enchaîner les contrats courts, tout simplement.
Alors, je crois, Philippe, il y a plusieurs problématiques, parce que j'entends effectivement ce que disent mes contradicteurs. Première chose, je pense que lorsqu'on est au chômage, on n'a pas forcément plus de facilité à trouver un emploi que quelqu'un qui est en activité. Malheureusement, c'est bien le contraire qui se produit.
Ça, c'est vrai.
Lorsque vous êtes en activité, c'est quand même plus simple, parce que vous pouvez négocier avec un employeur que quand vous êtes au chômage. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, et là où je ne suis pas entièrement d'accord avec c'est la personne qui est parmi moi, je ne sais plus son prénom.
Michel Bojas, une force ouvrière.
Voilà. Voilà, excusez-moi Michel. Où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est qu'il y a deux choses en France qui sont pénalisantes. Premièrement, c'est le coût du travail. On fait partie aujourd'hui des pays au monde où les prélèvements obligatoires sont les plus importants au niveau des entreprises. Donc il faut absolument, si on veut augmenter les salaires, diminuer le niveau de charge sociale pour maintenir la compétitivité. Parce que si on augmente les salaires, forcément, on augmente le coût du travail et nécessairement, on devient de moins en moins compétitif, et c'est bien ce dont souffre la France. La deuxième chose qui me paraît importante, et c'est là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on voit les autres pays européens, notamment le Danemark, l'Allemagne, la Suède, la Hollande, qui ont des mesures très incitatives d'accompagnement des salariés qui sont au chômage ou qui sont éloignés effectivement de l'emploi. Quand on voit les mesures qui sont mises en place en termes de dégressivité et quand on voit les niveaux de chômage, il y a forcément une action dans ces pays-là qui porte des fruits et qui incite les gens à aller vers le travail. Mais quand on regarde, et c'est là où il faut voir la globalité...
Ouais, ils n'ont pas le même taux de chômage que nous, désolé, mais quand vous avez un taux de chômage à 4%, c'est pas honte.
Justement, posons-nous la bonne question. Pourquoi dans ces pays-là, le taux de chômage est à 4% et pourquoi en France, il est autour de 10% en catégorie A, alors qu'on sait très bien qu'il est autour de 13, 14, voire 15% quand on intègre tous les gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc il faut se poser les bonnes questions. Un, c'est pourquoi il y a un niveau de chômage qui est aussi élevé en France par rapport aux pays européens. Deux, pourquoi les gens qui sont au chômage dans ces pays-là retrouvent plus facilement du travail parce qu'ils sont peut-être aussi mieux accompagnés pour aller du travail. Il y a peut-être des soucis de formation des travailleurs qui sont éloignés du travail, donc qui sont au chômage et qu'on n'arrive pas à les requalifier sur d'autres postes. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a un traitement de non-emploi en France qui n'est pas pertinent. Et c'est là-dessus où il faut, à mon avis, accentuer des solutions de la réforme. C'est bien évidemment avoir des mesures incitatives, mais en même temps,
faciliter l'accompagnement du chômeur pour retrouver un emploi qui soit peut-être différent de celui qu'il occupait avant. Puisque aujourd'hui, on sait très bien que les qualifications sont différentes et que les besoins des entreprises sont différents, donnons la possibilité de répondre aux besoins des entreprises. Je rappelle quand même un chiffre, si vous me permettez Philippe, encore 30 secondes, oui. C'est qu'aujourd'hui, allez-y. Vous avez environ 500 000 emplois non pourvus en France. Que les entreprises n'arrivent pas à trouver des salariés, même ceux qui sont au chômage, pour répondre à ce besoin-là. Donc ça veut dire qu'on a bien, bel et bien une difficulté de trouver des gens qualifiés sur des emplois qui sont non pourvus aujourd'hui. Donnons la possibilité à ces 500 000 emplois non pourvus de trouver un salarié qui vient correspondre aux besoins de l'entreprise.
Alors, il y a une note de l'UNEDIC sur l'impact de la réforme de l'assurance chômage. Il y a des chiffres assez intéressants. On va en parler dans quelques instants et j'aimerais avoir votre réaction sur ces chiffres. Jérôme Laverny, Michel Bojas et Luc-Éric Krief, on va se retrouver dans quelques minutes. Notre débat qui se poursuit évidemment. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique. Va-t-on vers une plus grande précarité? La réponse est oui du côté de nos auditeurs. Oui à 70%. Tiens, vous continuez de voter. Il reste encore une petite partie, la dernière partie de l'émission. Vous votez sur les réseaux sociaux et on se retrouve dans une poignée de secondes avec Jérôme Laverny, Michel Bojas et Luc-Éric Krief. On poursuit le débat, à tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 20h. Et le mardi, c'est l'emploi. Philippe Rossi.
Allez, dernière partie des vraies voies de l'emploi et notre question ce soir. Le gouvernement maintient sa réforme de l'assurance chômage malgré la crise économique qui s'annonce. Va-t-on vers une plus grande précarité? Toujours avec nous, Michel Bojas de Force Ouvrière, secrétaire confédéral Force Ouvrière chargé de l'emploi. Et puis Luc-Éric Krief, administrateur MEDEF Île-de-France. Il est chef d'entreprise également, Luc-Éric Krief. Jérôme Laverny, toujours avec nous, directeur du réseau national Mission Emploi. Et puis j'aimerais vous lire cette note sur l'impact de la réforme. L'UNEDIC qui estime que durant la première année de la réforme, sur les 2,6 millions de personnes qui auraient ouvert un droit avec l'ancien système, eh bien 9% n'ouvriront aucun droit avec ces nouvelles règles, 12% ouvriront un droit plus tard, qu'elles n'auront pas réuni immédiatement les 6 mois nécessaires. On peut imaginer que certaines d'entre elles seront, comme le disait Michel Bojas, au RSA, aux minima sociaux. 11% d'entre elles auront une durée de droit plus courte. Luc-Éric Krief, vous entendez ces chiffres, j'imagine. Signé l'UNEDIC, c'est une note de l'UNEDIC, c'est quand même des chiffres assez conséquents. On parle de 9%, 10%, c'est pas rien, c'est pas 1 ou 2%. Ça vous fait peur, ça, Luc-Éric Krief?
Je dirais ce qui me fait peur, c'est la crise sociale. On voit bien qu'aujourd'hui, après la crise sanitaire, ça devient une crise économique et je pense qu'à mon avis, on aura une crise sociale à la rentrée. On rajoute de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est le bon moment? J'en reviens toujours au même. Bien sûr que ça me fait peur. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne des précautions. Il faut qu'on aille résolument vers une réforme de l'assurance chômage. Ça me paraît important, ça me paraît essentiel. Mais je pense qu'il faut y aller prudemment et dans le bon timing. Voilà. Donc là où j'ai peur, c'est qu'on rajoute des difficultés aux difficultés. On sait très bien que les entreprises à la rentrée vont avoir de gros problèmes. Il va falloir commencer à rembourser les PGE. La trésorerie n'est quand même pas au top au niveau des entreprises. On voit très bien que le marché n'a pas encore repris, même si l'activité semble un petit peu rebondir. L'INSEE prévoit quand même une baisse et une récession sur l'année 2020. Donc je ne sais pas si effectivement la réforme de la retraite, la réforme du chômage vient au bon moment. Voilà. Donc ça me paraît inquiétant. Oui, je suis inquiet. Oui.
On aurait pu y aller par palier aussi. Ça aurait pu être une bonne idée. Michel Bojas, avant de donner la parole à Jérôme Laverny, Michel Bojas.
Écoutez, bien évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est une bonne réforme, mais qu'elle est la bienvenue. Donc c'est effectivement une mauvaise réforme, et les chiffres, on les connaissait. C'est au total, quand la réforme sera complètement opposable aux demandeurs d'emploi, c'est 1,3 million de personnes qui seront concernées. Et ce 1,5 million de personnes va encore augmenter, puisque le nombre de demandeurs d'emploi va augmenter. Et comme vous l'avez dit, l'UNEDIC, dans sa grande prudence, a donné que des pourcentages. Donc c'est une quantité énorme de demandeurs d'emploi qui vont voir leur indemnisation baisser. Mais Et puis, avec la difficulté de retrouver un emploi, et puis avec, par exemple, pour les cadres, la dégressivité. Et donc, oui. tout ça, c'est malvenu en ce moment. Je suis d'accord avec votre, excusez-moi, j'ai aussi oublié votre prénom avec
Luc-Éric Krief. Voilà, on est tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de timing, ça, c'est sûr.
Parce qu'il y a un problème, voilà. Et puis que, surtout, c'est que nous, on demande un retour à la convention de 2017 et à ce qu'il me semble, le MEDEF l'avait signé. Donc, on demande à ce qu'il y ait un retour à une gestion paritaire, à une négociation paritaire, que ce soit les partenaires sociaux qui négocient la réforme de l'assurance chômage et non pas qu'elle soit imposée comme ça très directement par le gouvernement. Parce que on parlait du coût du travail, mais c'est un faux problème, parce que le salaire médian en France, il est à 1800 euros. Ça veut dire que 50% des salariés en France gagnent moins, et jusqu'à 1800 euros, eh bien, les entreprises sont exonérées de charges. Donc c'est pas un problème de coût de travail, c'est un problème surtout d'emploi, c'est qu'il faut que les entreprises soient en capacité d'en créer. Et pour l'instant, malheureusement, ça a été dit, elles ne sont pas en capacité de créer de l'emploi.
Eh oui, alors le gouvernement veut avec cette réforme, on l'a compris, à inciter les chômeurs à trouver plus vite du travail, à être plus actifs dans la recherche d'emploi. Mais il y a une catégorie de chômeurs dont on n'a pas parlé pour l'instant, Jérôme Laverny, ce sont les seniors, tout simplement. Alors je peux vous dire que les seniors recherchent activement un emploi, mais ils n'y arrivent pas pour le coup.
Oui, ce sont les seniors, et puis les seniors au carré, hein, puisqu'on retombe dans la frénésie. On l'a vu dans un certain nombre de propositions, de mesures qui concernent exclusivement les jeunes. Et donc, voilà, les seniors passent à la trappe une nouvelle fois, avec donc à la clé, dans un magma global, d'un manque total d'imagination, d'inventivité dans cette réforme, où on se borne simplement donc à imaginer que la baisse potentielle des allocations constituera en elle-même un pouvoir incitatif. Luc-Éric Krief avait raison de rappeler que 500 000 emplois, c'est le grand paradoxe, ne sont toujours pas pourvus. Lorsque je disais, mais cette réforme ne joue que sur un levier incitatif, celui de la baisse des allocations, et non pas sur l'autre levier, celui de l'augmentation des salaires, c'était pas pour gréver les entreprises, qui, pour certaines d'entre elles, de toute façon, n'ont pas la possibilité d'augmenter les salaires. En revanche, l'État, lui, les pouvoirs publics, eux, en tant que chef d'orchestre, peuvent accompagner cette augmentation de salaire. Si on reprend l'étude de l'UNEDIC, citée par Anne Hédoux tout à l'heure, elle disait 22% de baisse pour certaines allocations chômage. On passe donc, selon cette même étude, de 905 euros à 708, soit moins 200, une économie de 200 euros. Mais si, plutôt que d'économiser 200 euros par-ci, on passait de 905 euros d'allocation chômage à un budget de 500 euros pour booster un recrutement sur un emploi. Je reprends l'exemple de préparateur logistique payé à 1100 euros. Si tout d'un coup on booste ce recrutement par un apport des pouvoirs publics de 500 euros, les pouvoirs publics gagnent au passage 400 euros et croyez-moi, le préparateur de commande, on va le trouver. Quel manque d'inventivité. Et là, je pense que c'est tout bête, c'est tout simple, mais il faut jouer aussi sur l'autre levier.
Michel Bojas de Force Ouvrière, alors là on l'a compris évidemment, la réforme n'est pas reportée, la réforme n'est pas abandonnée, de toute façon elle est passée, il y a plusieurs paliers, plusieurs étapes avec différentes entrées en vigueur. Est-ce qu'on peut quand même imaginer, Michel Bojas, qu'avec la crise économique qui s'annonce, les suppressions de postes, le chômage qui va augmenter, peut-être vous, syndicat, en mettant la pression sur le gouvernement, est-ce qu'on peut imaginer une ratification, je ne sais pas si le terme est bien choisi, de la réforme de l'assurance chômage, une reculade, comme on dit, même si elle est passée.
Alors, je ne sais pas si ce sera une reculade, mais effectivement, on a des discussions régulières avec le ministère du Travail, pratiquement 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, et il y aura des modifications de la réforme, parce que, bien évidemment, Force Ouvrière n'est pas la seule à porter le fait qu'il faille la revoir, et donc... Peut-être qu'on reviendra, par exemple, pour entrer dans les droits aux 4 mois. Peut-être qu'on révisera un peu le calcul du SGR pour que ça soit moins violent, parce que on parle de 20% de baisse d'indemnisation, mais pour certains demandeurs d'emploi, et dont les plus précaires, c'est 50% qui risquent de perdre. Donc, on va peut-être aménager, sauf que l'aménagement n'est pas suffisant.
190 000 personnes vont perdre 50%.
Oui, voilà.
Luc-Éric Krief, le mot de la fin.
Le mot de la fin, bon, je crois qu'il faudrait que, à mon avis, tous nos gouvernants passent par l'entreprise, passent par gérer le monde concurrentiel, pour prendre les bonnes mesures. Voilà, un chef d'entreprise, il essaie toujours de coller son marché et il est très pragmatique. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'on tombe dans des dogmes de plus en plus et qu'on veut réformer, c'est bien. Mais on réforme pas en écoutant suffisamment ce qui se dit au niveau des partenaires sociaux. Je pense que les corps intermédiaires sont importants et je rejoins ce que tout à l'heure disait Michel. Nous avons quand même un rôle essentiel au niveau des activités économiques et activités sociales. Je crois qu'il faut écouter un petit peu plus les corps intermédiaires et à un moment donné prendre les mesures qui s'imposent pour redonner de la vigueur à l'économie, redonner de la vigueur à l'emploi et redonner l'envie que la France devienne une nation compétitive eu égard à ses concurrents européens qui l'ont compris depuis fort longtemps et qui sont beaucoup plus actifs sur le marché de l'emploi que nous le sommes.
Alors vous parlez des corps intermédiaires qui sont reçus à tour de rôle par le gouvernement. On ne pourrait pas imaginer, Luc-Éric Rieff, puisque je vous entends dialoguer avec Michel Bojaz, vous entendre parfois sur certains points, une rencontre entre le MEDEF et les syndicats pour peut-être travailler ensemble et ensuite faire une proposition au gouvernement. Ce serait peut-être plus simple, ça, non ?
C'est ce qui se fait. Je crois qu'il y a certains syndicats, si vous voulez, avec lesquels il y a une très bonne entente, un très bon dialogue et en tout cas des propositions qui convergent vers des points communs. Je pense qu'il faut accentuer le mouvement. C'est important. C'est en dialoguant qu'on progresse et c'est en progressant qu'on devient compétitif. Voilà, donc il faut maintenir le dialogue, mais surtout, je pense qu'il faut faire abattre un certain nombre de préjugés, de préacquis, pour s'ouvrir vers le monde. Le monde, il devient de plus en plus compliqué. On voit bien, cette crise a remis en cause un certain nombre de dogmes, un certain nombre de choses qui nous paraissaient acquises. Il faut absolument pouvoir réformer, il faut absolument s'adapter, et je pense qu'en dialoguant, on est capable de s'adapter.
Et voilà, merci à vous Luc-Éric Rieff, administrateur MEDEF Île-de-France, chef d'entreprise, Michel Bojaz qui était avec nous, secrétaire confédéral Force Ouvrière chargé de l'emploi. Merci à vous, merci mille fois Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Et puis si vous voulez réécouter cette émission ou alors si vous l'avez prise en cours de route, eh bien je vous invite à la réécouter en podcast sur le site sudradio.fr et puis sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Évidemment, elle sera en ligne d'ici une petite heure maintenant. Dans un instant, le Loft Musique avec Yvan Cujous. Bonsoir Yvan.
Et oui, bonsoir mon Fifi. Je me disais que Pif, quand même, le réalisateur, il vous envoie des extraits musicaux superbes. Il y a vachement de chance, c'est super.
Ah,
quoi.
Il fait une très bonne programmation, Pif.
On dirait une émission musicale, en fait. On pourrait inverser. Moi, je pourrais faire les vraies voix et vous feriez la musique, Philippe Rossi, par exemple. C'est rigolo, ça.
Ah, bah écoutez, on pourra inverser une fois, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas votre talent de chanteur ni de musicien, mais vous êtes peut-être mon talent.
C'est trop mimi.
Alors au programme Yvan ce soir.
Nous avons ce soir, alors on va proposer une séance de yoga pour les enfants. Ça s'appelle le yoga de Bloom et il suffit pour les enfants qui nous écoutent, d'être avec leurs parents et de faire ce que la dame va dire dans le poste. Et puis on aura également quelqu'un que vous connaissez parce que la fondation du groupe FFF et puis guitariste de Johnny Hallyday, il s'appelle Yarol Poupeau, mais il est bien plus que
bien
ça,
sûr.
Yarol Poupeau. Hein. Il est bien plus que ça. Il a fait son premier album un peu sur le tard et on va en parler avec un nouvel extrait ce soir. Et puis sinon, tout va bien. Moi, je suis assez heureux. J'espère que vous aussi, Philippe, aussi.
Mais il n'y a pas de souci. On est tous heureux quand on est sur Sud Radio et en vous écoutant, Yvan Cujous, il n'y a pas de souci. Yarol Poupeau dans un instant, puis une belle séance de yoga. À tout de suite, Yvan.
Bisous, Fifi, merci.